Béni soit Dieu pour ces moments bénis où nous pouvons ensemble eh bien, réfléchir à tout ce que Dieu a fait et à ce que Dieu veut pour nous. Alors nous allons nous lire un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, qui a certainement fait l'actualité de l'époque. Luc, chapitre 13, verset 1er. Nous nous posons tous des questions. Vous vous en posez des questions par rapport à des situations, des événements, par rapport à l'actualité, etc. Et c'est normal, la preuve, on va le lire dans ce texte de Luc, chapitre 13, verset 1er. Regardez bien. Dans ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. C'est affreux, ça. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Donc Jésus parle de situations qui sont étonnantes. Entre autres, ces 18 personnes qui sont mortes, sur qui une tour est tombée. Je suppose que ça vous fait penser à ce que nous avons vu cette semaine, ces 40 personnes ou plus qui sont décédées parce qu'elles se trouvaient sur le pont au moment où s'est effondré. C'est terrible. Et ça doit en même temps nous faire réfléchir. Ce qui nous prouve une chose, c'est que Dieu va nous reprendre. Mais comment ? Vous voyez, Jésus, ces gens, ils étaient étonnés. Il y avait des gens qui étaient morts. Pilate avait appris qu'ils offraient du sacrifice et il les a fait tuer avec les sacrifices qu'ils étaient en train d'offrir. Ça fait que le sang des sacrifices qui avaient été offerts s'était mélangé avec le sang de ses propres gens qui offraient un sacrifice. Mourir comme ça, vous vous dites, sérieusement. Vous voyez qu'il se passait des choses, même à l'époque, qui étaient vraiment affreuses. Et Jésus explique, Mais vous pensez que ces gens étaient plus pécheurs que d'autres ? On pourrait dire, ces 40 et quelques personnes qui sont mortes, qu'avaient-elles de différent ? Nous allons lire un autre texte qui se situera à la fin de l'histoire du monde. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, il nous est parlé d'un jour, 1000 ans après l'enlèvement de l'Église, qui concerne la seconde résurrection, c'est-à-dire la résurrection de tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 20, verset 11. C'est très sobre quand on voit, quand les chrétiens vont se présenter devant Dieu, et là, il y a une grande différence. Là, regardez, c'est très très sobre. Apocalypse 20, verset 11, qu'est-ce qui se passe ? « Je vis un grand trône blanc » et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, vous savez, il y a des degrés dans le jugement. Tous les gens qui iront à l'enfer n'auront pas la même punition. Alors, les petits et les grands, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Nous allons faire encore une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Ce sont les apôtres qui ont été envoyés par Jésus en mission. Ils sont très 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 heureux. Ils ont fait de grandes choses pour le Seigneur. Et bien sûr, ils sont tous enthousiastes de dire à Jésus ce qu'ils ont fait. Et regardez la réaction de Jésus. Luc chapitre 10, verset 17. Nous aurions fait la même chose. Bien entendu. Ce n'était pas du tout malsain. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie en disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Donc nous venons de partager certaines choses, à savoir que Dieu peut nous reprendre de façon bizarre, comme nous l'avons lu dans l'Évangile tout à l'heure, comme ces gens sur qui la tour est tombée et qui sont morts. Et Jésus leur dit, mais ne soyez pas étonnés. C'est vrai que nous, on peut être étonnés quand on pense à la mort de Jean-Baptiste qui a été catalogué par le Seigneur Jésus comme étant le plus grand homme qui existait sur la terre. Vous avez vu comment Jean-Baptiste est mort ? Sincèrement, vous ne trouvez pas que pour un homme qui a été grand comme ça, décapité à 30 ans, sûrement, ou 31 ans, de la façon dont il est mort, vous ne trouvez pas que c'est une mort bizarre ? Sincèrement, vous ne trouvez pas, on pourrait dire, tiens, quand même, je suppose qu'il y a des mauvaises langues qui ont dû dire, c'est quand même bizarre qu'il soit mort dans ces conditions. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes sûr d'une chose, c'est que nous, les hommes, comme nous n'avons pas la connaissance de tout, nous pouvons nous tromper. Et la Bible dit, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. C'est vrai que nous, on peut dire, tiens, cette personne, elle est morte comme ça, c'est bizarre. Pourquoi ? Nous n'avons pas tellement à poser la question, pourquoi telle personne, elle est morte dans ces conditions, ou elle est morte de cette façon, ou elle a été assassinée de telle et de telle façon. La question que nous devons nous poser, c'est pour chacun, non pas quand est-ce que je vais mourir, parce que quand est-ce que vous allez mourir ? Est-ce que vous le savez ? Nous, on est presque inquiets lorsqu'une personne meurt à 30 ans, ça nous convient pas. Il faut mourir à quel âge ? Quel âge il faut mourir ? Non, mais je veux dire, il a bien vécu, il avait 90 ans, c'est bien. On l'a entendu tous, oui ou non ? Ah, il est mort à 40 ans, je ne comprends pas. Mais on n'a pas à comprendre. On peut mourir à 20 ans. À 40, à 60, à 80, à 100 ans. Madame Carrière, elle va avoir bientôt 100 ans. Madame Tournerie, elle a 107 ans, je crois. À 105 ans, elle a acheté un appartement en Espagne. Voilà, pour aller se promener de temps en temps. Mais c'est bien. Vous auriez acheté un appartement, vous, à 105 ans ? Donc, je ne sais pas. En tous les cas, la parole de Dieu, elle est là. Et c'est pour ça qu'on est devant Dieu. C'est pour ça que Dieu veut que nous ayons des réunions comme celle-ci. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs des Saintes Écritures et il est là pour nous éclairer. La Bible dit qu'il vous éclairera, il sera en vous, il vous conduira. Et quelle grâce lorsque le Saint-Esprit nous éclaire. On a besoin d'éclairage, on a besoin d'être éclairé. Alors, on a lu des textes où des gens sont inscrits dans le livre de vie. Jésus reprend vite tous ses apôtres qui reviennent enthousiasmés. On a fait des choses, en veux-tu, en voilà. Et Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas du résultat. Parce que le résultat, vous savez, dans la vie, il y en a ou il n'y en a pas. Ne vous réjouissez pas du résultat. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et nous voyons à la fin de l'Apocalypse des hommes qui se sont retrouvés éloignés définitivement de Dieu. Pourquoi ? Parce que leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie. Alors on pourrait prendre d'autres textes, mais ça fait mal au cœur de voir dans la Bible des gens qui sont exclus de la présence de Dieu. Alors que quand vous lisez l'Évangile, vous n'arrêtez pas d'entendre des situations comme le dernier cantique le rappelait, « Viens, crois à sa miséricorde, viens, crois dans sa grâce, etc. etc. » C'est magnifique d'être toute notre vie invité. Et pourtant, la Bible explique bien qu'il y a des gens qui seront exclus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auront pas pu prouver qu'ils appartenaient à Dieu. Et pourtant, il y a des gens qui sont inscrits dans les églises. Mais dans toutes les églises, il y a des registres, presque toutes. y en a qui les tiennent à jour, d'autres plus ou moins, mais normalement, dans toutes les églises du monde, il y a des registres, et voilà, voilà, Madame Pen Antoinette a été baptisée le 19 mai 55. Ouais, je n'étais pas né. Vous voyez, il y a dans les églises, vous pouvez prendre les registres, il y a... Et les gens pensent que parce que leur nom est inscrit sur un registre d'église, ils sont sauvés. Normalement, oui. Ça devrait coller, ça. Tous ceux qui sont inscrits dans une église sont des personnes qui ont voulu être fidèles à Dieu, normalement. Mais souvent, c'est des gens qui... Pourquoi ont-ils leur nom inscrit dans les églises? Allez, vous pouvez m'aider. Dites-moi, il faut m'aider parce que... Non, c'est pas la loi. Ça n'a rien à voir avec la loi. C'est tout à fait religieux. Il y a des choses qui sont séparées de l'État. Vous savez, la laïcité, c'est ça, c'est que... Non, non, ça n'a rien à voir avec la loi. Aujourd'hui, c'est vrai que l'État, le ministre des Cultes, demande que chaque membre soit répertorié, c'est vrai. Mais après, au niveau du registre des baptisés, pourquoi les églises ont-elles des registres? Alors, il y a plusieurs choses, mais vous savez, quand un enfant, par exemple, dans certaines églises, on baptise des enfants, à quel âge ils ont? Quelques mois, exactement, ils ont quelques mois, on les baptise et leur nom est inscrit dans un registre. Voilà, moi j'ai été baptisé, j'avais quelques mois, parce que je suis né dans une famille catholique. Donc voilà, j'étais sauvé à 3 mois. Je me suis donc sauvé, converti à 3 mois. Voilà, ça tient debout? Eh bien sûr que non. Alors on pourrait prendre tout ce qui se passe dans toutes les églises, mais c'est pour vous dire que c'est une chose d'avoir son nom inscrit dans le registre d'une église, ça en est une autre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'avoir son nom inscrit dans le ciel. C'est une des plus grandes bénédictions, c'est pour ça d'ailleurs que Jésus dit non, ne vous réjouissez pas du résultat, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le ciel. Et c'est vrai que le jour où Madame Pen s'est convertie, en mai 55, mais vous êtes converti quelques mois avant, non? Combien de temps vous êtes converti avant? 3 mois avant, donc en février, c'est ça? En février, il y a dans le ciel, vous savez, ça peut faire sourire, mais c'est quand même la vérité. Dans le ciel, il y a un ange qui a écrit Antoinette. Voilà. Son nom est inscrit dans le ciel. Alléluia. Quel bonheur d'avoir son nom inscrit dans le ciel. C'est pour ça que nous ne devons pas trop nous affoler. Il y a plein de gens qui sont en colère contre Dieu. Lorsque des gens meurent d'une manière bizarre, vous voyez, ça va, ce qui s'est passé en Italie, mais c'est toutes les semaines. En Inde, cette semaine, il y a eu 400 morts, je crois, par des inondations. On n'en parle pas, mais c'est terrible ça. Et il y a des gens qui vont dire, mais si Dieu existait, comment permettrait-il qu'autant d'enfants soient morts piégés par l'eau? Comment Dieu permet-il que dans une école, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, une quarantaine d'enfants aient été tués par des explosifs? Et les gens sont en colère, parce que les gens n'ont pas compris que ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Ce qui fait ça, c'est l'homme qui a abandonné Dieu. Et qui devient de plus en plus méchant. Ce matin, je lisais la Genèse, je recommençais à lire la Bible, je lis la Genèse, et quand on voit combien il est dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, tous les hommes étaient méchants, tous. Et Dieu a permis qu'il y ait ce déluge sur la terre. Combien ont été sauvés lors du déluge? 8. 8. 8 personnes, tout le monde est mort noyé. Et les gens aujourd'hui sont en colère, ils sont en colère contre Dieu, ils s'imaginent que si leur nom est inscrit justement sur le registre d'une église, eh bien ça suffit, moi je l'ai déjà entendu plusieurs fois, ils croient en Dieu, ça suffit. Mais ça ne suffit pas de croire en Dieu. La Bible ne nous demande pas de croire, la Bible nous demande de nous repentir. Croire en Dieu ne fera pas que votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Les démons, est-ce qu'ils croient? Oui, ils tremblent. Et je comprends pourquoi ils tremblent. Parce qu'ils savent ce qui les attend. Parce qu'eux aussi savent que le jugement dernier est pour eux. Et c'est les chrétiens même qui jugeront les anges déchus. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez ça? Hein, c'est écrit. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges. Donc, par déduction, bien sûr, ce sont les anges déchus. Donc, vous devez réfléchir. Lorsque nous nous retrouvons dans un lieu comme celui-ci, vous ne devez pas dire « Ah, mais moi, je suis catholique, moi, je suis évangélique, moi, mon père est pasteur, moi, je suis de tout petit, je vais dans une église, je connais même des psaumes par cœur, moi, je n'abandonnerai jamais la religion de mes parents. » On l'entend souvent, ça. Mais Dieu ne vous demande pas d'avoir une religion. Le nom inscrit dans le livre de vie, c'est beaucoup plus sérieux que d'appartenir à une église. Parce qu'un jour, votre âme vous sera redemandée. Comment ? Vous en savez, vous ne le savez pas. J'y reviens, vous ne savez pas quand est-ce que vous partirez. Vous ne savez pas quand est-ce que Dieu vous redemandera votre âme. Vous ne savez pas dans quelles conditions le Seigneur peut permettre que vous quittiez cette terre. Parce que c'est vrai qu'il y a des livres. Regardez avec moi dans le psaume 139. S'il y a des livres, dans le ciel, il y a plein de livres. Est-ce que vous le savez ? Vous aimeriez savoir comment ils sont, ces livres ? Ben bon, si, moi j'aimerais savoir. Psaume 139, mais ce n'est pas important. Regardez, dans le psaume 139, verset 16. C'est un texte extraordinaire. Extraordinaire. Psaume 139, verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Ça veut dire quand vous étiez dans le sein de votre maman. Vous ne le saviez pas, ça, vous le saviez ? Non. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Alléluia. Vous ne trouvez pas ça merveilleux ? Dieu, dans son immense souveraineté, ce qu'on appelle son omniscience, sa préscience, il a déterminé le nombre de jours que vous passeriez sur la terre, quelle que soit la façon dont Dieu permettra que vous repartiez. Un jour, votre âme vous sera redemandée. Je pensais à notre frère, vous savez, qui est décédé, le papa de Leslie. Il me disait, il y a un mois, moi, vous savez, monsieur Gaumont, je fais du sport pour me tenir en bonne santé. Est-ce qu'il avait raison ? Mais bien sûr qu'il a raison. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en bonne santé que vous vivrez plus longtemps que quelqu'un qui est malade. Il y a des gens qui sont malades et qui ne meurent jamais. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Et bien sûr qu'on a raison de faire du sport. Je pense qu'il faut faire du sport. Je pense qu'il faut s'entretenir, faire attention à son corps, etc. Ce n'est pas incompatible. Mais ce n'est pas parce que vous êtes malade que vous allez mourir. Et ce n'est pas parce que vous êtes en bonne santé que vous allez vous faire centenaire. C'est Dieu qui a déterminé les bornes de toute chose et de notre vie. Alors, comment nous reprendra-t-il ? Qu'importe. Je me souviens de Madame Koudougou, vous savez, la maman d'Eliezer. Vous connaissez notre frère Eliezer, le frère à Nathanaël. Eh bien, elle m'a raconté au téléphone qu'elle devait prendre l'avion en Afrique pour rentrer en France. Et quand elle est arrivée à l'aéroport, elle a eu un malaise. Elle a téléphoné à son mari, elle a dit « Écoute, je prends pas l'avion. » Il me dit « Comment ça ?»« Non, je peux pas prendre l'avion. » Et l'avion s'est écrasé. Et voyez, et pourtant dans cet avion, il y avait des chrétiens. Puisque François Aguilar, vous savez, qui travaille pour la traduction de la Bible en Afrique, nous a dit qu'il y avait un couple, et même deux couples, je crois, de chrétiens, qui travaillaient pour la traduction de la Bible, qui rentraient en France pour un séminaire, et que Dieu a repris. Vous voyez comment ce sont des choses qui nous étonnent. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas mis la même pensée dans le cœur de ces autres chrétiens ? Nous, toutes ces choses nous dépassent, mais on ne devrait pas s'en tracasser. Nous, ce qui est important, c'est que nous dirigeons nos pensées vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toute ta pensée. Nous, le problème, ce n'est pas la façon dont on va mourir. Le problème, c'est que nous nous préparions à le rencontrer. Et c'est mon devoir de vous dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois malade ou que tu sois en bonne santé, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Vous savez, des fois, on assiste à des enterrements. Moi, j'assistais à des enterrements. Bien sûr, normalement, quand c'est dans des églises où les gens sont sauvés, c'est presque une grâce de faire des enterrements, franchement. Mais j'assistais à des enterrements où on disait « Ah, cet homme, c'était un bon chrétien, il allait à l'église tous les dimanches. » Mais ces gens-là n'étaient pas passés par la repentance. Alors ce n'est pas à nous de juger, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur d'un homme quand il va mourir. Lorsque ce pont s'est effondré, est-ce que quelqu'un avait entendu l'évangile avant ? Combien de temps il faut pour demander pardon à Dieu ? Combien de temps il faut pour demander pardon à Dieu ? Un mois ? Une semaine ? 10 secondes ? 3 secondes ? Combien de temps il faut ? Moi, je crois qu'il faut qu'un instant. Et on ne sait pas comment les choses se passent. Nous n'avons pas à juger. Mais ma question, elle est là cet après-midi. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Êtes-vous réconcilié avec Dieu ? Monsieur Lafayette avait fait marquer ce verset sur le fond de l'église. Soyez réconcilié avec Dieu. Soyez réconcilié avec le Sauveur du monde, avec le Rédempteur. Votre nom est-il dans le livre de vie ? D'autant plus que c'est une affaire sérieuse. Regardez avec moi encore dans l'Apocalypse, au chapitre 3, nous voyons quelque chose qui était, je pense que c'est la chose la plus triste au ciel. Parce que le ciel est un lieu de félicité, un lieu de joie, un lieu de lumière, etc. Nous ne nous rendons pas compte à quel point le ciel doit être quelque chose de merveilleux. Et pourtant, il est parlé d'une situation difficile par rapport à des gens qui ne sont pas sérieux avec le fait d'être réconciliés avec Dieu. Apocalypse 3, on va lire à partir du verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ça fait partie des gens qui, jusqu'à la fin, se marchent avec Dieu. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Dans ce verset, il y a une grande, grande bénédiction et il y a une grande, grande détresse. La grande bénédiction, c'est que quand un chrétien reste dans l'obéissance à Dieu, qu'il reste fidèle à sa parole, lorsqu'il commet un péché, il demande pardon, c'est sincère, etc. Il marche avec le Seigneur. La Bible dit que quand il passera devant Dieu, Jésus-Christ sera son avocat devant le Père. Ça vous rassure de savoir que quand vous passerez devant Dieu, le Seigneur Jésus-Christ sera votre avocat ? Est-ce que ça vous rassure ? Moi, ça me va très bien. Mais ce verset nous dit aussi qu'il y a une catégorie d'hommes qui n'auront pas veillé sur leur âme et leur nom aura été effacé du livre de vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été inscrits, qui ont donné leur cœur, qui se sont repentis sincèrement, et puis après qui ont fait n'importe quoi, et dans le ciel, je ne sais pas qui est chargé de ça, un ange sûrement, eh bien, d'avoir son nom effacé du livre de vie. Ça doit être terrible de se présenter un jour devant Dieu et de se rendre compte que nous n'avons pas été sérieux avec Dieu. Donc, soyons sérieux, le salut, il est gratuit, mais il est conditionnel. Il faut obéir, il faut le faire de bon cœur, parce qu'on aime, et il y a des livres qui seront ouverts. Il y a plein de livres dans le ciel, plein, plein, plein. En tous les cas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la joie qui peut être la vôtre, si vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ, si vous avez accepté que le sang du Seigneur Jésus-Christ est coulé pour que votre nom soit inscrit. Est-ce que vous vous rendez compte ? Quelle bénédiction ! Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, est mort au milieu de deux brigands. Enfin, quand on voit les prophéties qui concernent la mort de Jésus-Christ, ça fait vraiment mal au cœur. Et pourtant, il a tout accepté. Pourquoi ? Parce qu'il veut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Quel moment béni, peut-être que vous n'y penserez pas souvent, mais sachez qu'un jour, vous vous présenterez devant Dieu. Quel moment extraordinaire, parce qu'on se rappellera toute notre éternité, que si notre nom est inscrit dans le livre de vie, c'est parce que Jésus-Christ a versé son sang. Quel bonheur, quelle bénédiction. Mais certaines personnes seront là devant le tribunal de Christ. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tous. C'est écrit ça ? Est-ce que c'est écrit ? Il nous faut tous comparaître devant le tribunal. Tous rendre des comptes. Alors rendre des comptes, c'est pas, ça n'a rien à voir avec le jugement. Mais le jugement dernier, il s'appelle le jugement dernier parce que ce sera le dernier jugement. Quand la Bible parle du jugement des chrétiens, ça ne veut pas dire la condamnation. Mais la condamnation éternelle, ça doit être terrible. D'avoir pensé qu'on pouvait être sauvé par les œuvres. Vous avez vu que dans le texte, il y a le livre des œuvres qui est ouvert. Est-ce que c'est bien de faire des œuvres ? Bon. Est-ce qu'il faut faire des œuvres ? Oui, il faut faire des œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est inutile. Un chrétien qui ne fait pas d'œuvres est un chrétien qui prouve par là qu'il n'a pas de communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a des textes qui nous montrent que si on ne fait pas certaines choses, ou qu'on est paresseux, eh bien ça va mal se passer. Mais il n'empêche que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais il y a des gens qui font des œuvres. Je vous ai souvent parlé de ce monsieur en face qui avait 27 maisons. Et une fois, j'avais été le trouver, il s'appelait Monsieur Villèle, et j'avais été le trouver parce que l'église avait besoin de quelques classes de plus pour l'école du dimanche, et j'avais été le voir, et il me dit, j'ai dit, voilà, bonjour Monsieur Villèle, je suis le pasteur de l'église en face, et j'aurais aimé savoir si vous ne pouviez pas nous vendre une de vos maisons pour faire le catéchisme, il avait dit. Ah, il me dit, oui. Et il avait une voix tout ça bizarre, et il me dit, mais si je vous la donne la maison, j'irai au ciel. Ah, j'ai dit, si vous voulez nous donner la maison, ça ne pose pas de problème. Mais ce n'est pas parce que vous nous donnerez la maison que vous irez au ciel. Ah si, monsieur Gros. Il me dit, moi, le couvent bleu m'a dit que si je donnais mes maisons, j'irai au ciel. Ah, j'ai dit, écoutez, moi, dans la Bible, il est dit que pour aller au ciel, il ne faut pas donner des maisons. Pour aller au ciel, il faut accepter le sang de Jésus-Christ qui a coulé au calvaire. Ah, ne me parlez pas de lui. Ne me parlez pas de lui. Ne me parlez pas de lui. Il devenait furieux quand je lui parlais de Jésus. Mais monsieur Gros, quand même, si je vous donne une maison, je dis, mais donnez-moi là la maison. Mais vous n'irez pas au ciel parce que vous allez me donner la maison. Et je l'ai vu pendant des années. Et chaque fois, on revenait, monsieur Gros, si je vous donne une maison, est-ce que j'irai au ciel? Je dis, non, 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 non. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'irez pas au ciel parce que vous allez donner votre... Ça a duré des années. Pour aller au ciel, il vous faut accepter Jésus-Christ. Ne me parlez pas de Jésus-Christ. Parlez-moi de Dieu, mais ne me parlez pas de Jésus-Christ. Mais justement, si vous voulez aller voir Dieu, il vous faut passer par Jésus-Christ. Ne me parlez pas de Jésus-Christ. Il était furieux contre Jésus-Christ. Parce que quand on parle de Dieu, on peut parler de la création, on peut parler de la philosophie religieuse. Quand on parle de Dieu, c'est très vaste. Parler avec un musulman de Dieu, ça va bien se passer. Parler de Dieu avec un philosophe, ça va bien se passer. Dès que vous parlez de Jésus-Christ, vous parlez de la croix. Dès que vous parlez de Jésus-Christ, vous en venez à votre propre péché. Et vous êtes obligé de le régler. Et cet homme ne voulait pas. Mais on lui a promis, on lui a écrit que s'il donnait ses maisons, il irait au ciel. Et la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit, écoutez, monsieur Villèle, je vous dis que vous n'irez pas au ciel parce que vous donnerez vos maisons à une église. Et il me dit, mais c'est votre parole contre la mienne. Et j'ai dit, vous allez bientôt le vérifier. Et 3 semaines après, il est mort. Ça m'a fait de la peine parce que cet homme, Dieu avait permis qu'on ait un contact avec lui. Et toute sa vie, on lui a fait croire qu'en faisant des œuvres, il serait sauvé. Non, quand le livre des œuvres sera ouvert, les œuvres ne nous sauvent pas. Par contre, la Bible parle de récompenses extraordinaires pour tous ceux qui font des œuvres pour Dieu. Et béni soit Dieu, si nous pouvons faire des choses pour le Seigneur, ça va très 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 loin, puisque Jésus dit que celui qui donnera un verre d'eau froide à un chrétien, à quelqu'un, pour lui rendre service, c'est-à-dire un verre d'eau froide, ça représente dans la Bible le plus petit service qu'on puisse faire. C'est ça le verre d'eau froide. Si ce soir vous téléphonez à Madame Carrière, tiens, parce qu'elle n'a pas pu venir au culte, Madame Carrière, est-ce que ça va, c'est ça un verre d'eau froide. Oui, c'est une petite chose, ça ne coûte rien, mais c'est enregistré. Que le Seigneur soit béni. Alors votre nom est-il inscrit dans le ciel? Qu'entendrez-vous entre bon et fidèle serviteur? Ou entendez-vous, je ne vous connais pas, retire-toi de moi. Ah, monsieur Gau, c'est pas bien ce que vous dites. Parce que la Bible dit que Dieu connaît tout le monde. C'est écrit. Et pourquoi Jésus dira-t-il à des gens, je vous connais pas? Ça veut pas dire je vous connais pas. Ça veut dire, je ne te reconnais pas comme un de mes enfants. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que cet après-midi, vous allez sortir de ce petit temple, vous allez sortir de cette église, vous allez rentrer chez vous? Est-ce que vous vous réjouissez de ce que votre nom est inscrit dans le ciel? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que mon nom soit inscrit dans le ciel? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que j'aille signer dans le bureau du pasteur tout à l'heure quelque chose? Est-ce qu'il faut que je prenne le baptême? Non, bien sûr que si vous donnez votre cœur à Jésus-Christ, c'est sûr qu'un jour, vous aurez envie de vous engager avec lui. Mais Madame Penn le disait tout à l'heure, elle s'est baptisée en mai 55, mais elle a donné son cœur en février. Et même, je crois qu'elle voulait se faire baptiser de suite. Non? Mais on vous a fait attendre 3 mois. Mais alors, est-ce qu'elle a été sauvée en mai ou est-ce qu'elle a été sauvée en février? Est-ce que son nom a été inscrit en février
ou en mai 55. En février. Elle le savait peut-être pas, parce qu'elle découvrait l'Évangile, mais une chose est sûre, le jour où dans son coin, après avoir fermé les yeux et dit à Jésus, Jésus, je te donne mon cœur, je te remercie de t'avoir mis sur mon chemin, etc. Le jour où elle a dit, Seigneur Jésus, merci pour ton sang versé, je te donne mon cœur. Je sais que tu es mort pour que je n'aille pas en enfer. C'est le seul moyen d'aller au ciel, d'accepter le sang de Jésus-Christ comme le seul moyen pour entrer au ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour ça que la Bible parle du sang de Jésus-Christ comme d'un sang précieux. Est-ce qu'il est précieux ? Ah oui, c'est clair qu'il est précieux. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont précieuses à vos yeux, mais je peux vous dire que le sang de Jésus, il est précieux. Il a du prix. Parce que si vous allez au ciel, si toute l'éternité, vous vous retrouvez dans la gloire de Dieu, c'est parce qu'un jour vous aurez dit, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Merci de m'avoir éclairé. C'est une grâce d'être éclairé. Si nous sommes ici, si nous avons la joie de lire la Bible, si le Seigneur nous a fait naître dans un foyer chrétien, est-ce que c'est une grâce d'être né dans un foyer chrétien ? Moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui m'ont dit, si je n'étais pas dans un foyer chrétien, je pourrais aller en boîte de nuit, j'allais mort d'avoir des parents chrétiens, je regrette d'être dans une boîte. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Pourquoi je suis né dans un foyer chrétien ? Puis après, c'est bizarre, quand les années passent et que ces jeunes se convertissent, ils disent, oh, merci Seigneur de m'avoir fait naître dans un foyer chrétien. Bon, quand on est jeune, on dit des bêtises. On n'en dit que quand on est jeune, des bêtises. Quand on est grand, c'est fini. Presque. Mais quelle grâce. Des livres qui sont ouverts. Et je voudrais terminer avec un texte qui complète tout ce que je vous ai dit. C'est dans Colossiens. C'est pour nous montrer une fois de plus la grandeur de Dieu. Quel bonheur de lire ces textes, mes frères et sœurs. Dans Colossiens, au chapitre 2, non seulement Dieu nous inscrit dans son livre, mais regardez Colossiens chapitre 2, ce qui se passe au calvaire lorsqu'un homme accepte que Jésus-Christ soit mort pour ses péchés. Regardez ce qui se passe. D'un côté, Jésus écrit, et de l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Colossiens 2, verset 14, regardez ce qu'il fait. Quelle grâce ! Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Vous pouvez dire amen ou merci, mais avec votre cœur. Tu écris mon nom dans le ciel, et en plus, tu effaces tous mes péchés. C'est écrit dans l'Ancien Testament. David, qui connaissait Dieu, dit, il a effacé toutes mes iniquités. Il a effacé toutes mes transgressions. Il ne se souviendra plus de mes péchés. Non seulement ton nom peut être inscrit dans le livre de vie, et en plus, tout ce qui te condamnait a été effacé. Et que la prochaine fois que vous chanterez un cantique sur l'amour de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, je suis persuadé que vous le chanterez avec encore plus de ferveur, parce que vous vous souviendrez que le sang de Jésus efface vos péchés, et le sang de Jésus vous permet de ce que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Quelle grâce d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Quel jour béni ce jour où nous allons nous présenter devant le Seigneur. Quel jour béni avec ça. Vous avez vu ce monde difficile ? Et quand on sera avec lui revêtu de fin lin blanc, hein, quand vous écouterez Béatrice jouer au piano, vous dites, mais elle joue bien, mais elle joue 10 fois mieux, 100 fois mieux. Vous jouerez aussi bien qu'elle. Est-ce que vous savez qu'au ciel, on saura tout faire ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce qu'il y a des textes qui le disent ? Qu'on connaîtra exactement comme Jésus nous a connus, que nous serons semblables à lui, etc. Enfin bon, ça c'est le grand programme, on n'en parlera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se préoccupe que de l'essentiel. Alors ne vous traumatisez pas de la façon dont meurent les gens. Vous entendez ? Ne vous mettez pas contre Dieu parce que des gens meurent d'une manière bizarre. Jésus en a parlé. Ces gens-là ne sont pas morts parce que c'était des pécheurs plus que les autres, vous inquiétez pas. Ils sont morts parce que de toute façon, Dieu nous reprendra à tous. Alors, donnons-lui notre cœur, si nous le voulons. Moi, je vous demande de le faire. Quand on a chanté un roi qui pardonne Ça n'existe pas, un Dieu qui s'incline devant ses sujets, un Dieu qui nous propose de nous réconcilier avec lui. Mais comment cela se fait-il qu'un Dieu nous propose de nous réconcilier avec lui? Mais parce que si on n'est pas réconcilié avec lui, il y a quelque chose qui va passer, de mal qui va se passer. Est-ce que vous êtes réconcilié avec Dieu? Oui, alors on ferme les yeux et on répond à cette prédication. Ça, c'est à vous de le faire. Moi, je ne peux pas le faire à votre place, mais c'est à vous de le faire. On va prier simplement. On est devant le Seigneur. Dieu permet que nous ayons des moments de partage comme ça. Quelle grâce de pouvoir partager sa sainte parole. Ton nom est-il inscrit? L'acte qui te condamnait est-il effacé? Mais si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois qu'il a versé son sang, et si tu dis « je te demande pardon parce que je suis un pécheur, que j'ai 10 ans, que j'ai 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, etc. » Ça n'a aucune importance, que vous mouriez à ces âges-là, ça n'a aucune importance, que votre nom soit inscrit. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ton amour manifesté à la croix et pour ton amour révélé par les saintes Écritures. Comment tu nous expliques les choses au travers du Saint-Livre, de ce qu'un jour nous comparaîtrons tous devant toi, quelle que soit la façon dont nous allons mourir, quel que soit l'âge à laquelle nous allons partir, ce que nous voulons, c'est que notre nom soit inscrit. Et s'il y a quelqu'un cet après-midi qui veut le faire, bénis-le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui veut te donner son cœur, fais-lui grâce. Que son cœur soit touché par ta parole. Que son cœur soit attaché à tes promesses. Que nous puissions tous nous retrouver au ciel, nous qui sommes ici cet après-midi. Que tous nous puissions un jour nous retrouver ensemble, revêtus de fin lin, en t'ayant pour avocat devant le Père, toi, le Seigneur Dieu, le Rédempteur, tu seras également notre avocat. Que ton nom soit béni.